Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et ce zapping RMC, on le commence avec Apolline Matin. Nos routes secondaires deviennent-elles trop dangereuses? Nid de poule, chaussée gondolée, bas-côté détérioré. 18% de nos routes nationales sont en mauvais état, d'après l'Observatoire national de la route. Un constat que fait également Olivier. Il est transporteur à Calais et il traverse régulièrement toute la France.
Depuis 10 ans, on se rend compte de la lente et inexorable dégradation du réseau routier français. Je fais attention déjà, une, au trafic, et deuxièmement, à l'état de la route, quand je ne suis pas sur autoroute, bien sûr sur des nationales, etc., etc., parce que entre les nids de poules, etc., etc., c'est très accidentogène. J'ai vu des personnes devant moi être en danger, oui, bien sûr.
Perico, est-ce que tu constates, toi, cette situation de dégradation de notre réseau secondaire?
Ça fait longtemps. Alors, il y a une sélection de classe des territoires où c'est plus ou moins dégradé, selon la politique du département, selon le statut social du quartier où ça se passe. Ça, on le constate. Non, je fais allusion quand il y a eu l'accident du pont de Mirepoix, le poids lourd qui s'était effondré.
Ouais.
Le Sénat venait de publier quelques jours avant un rapport. Il y a 25 000 ponts en France. 25 000. Je crois qu'il y a encore eu un accident de pont récemment. Il y a 25 000 ponts qui sont en état de vétusté ou de délabrement qui un jour vont poser un problème. Et un pont, quand il craque, c'est pas un nid de poule. Ça peut être beaucoup plus grave. Donc, effectivement, l'État, aujourd'hui, manque de moyens. On manque d'infrastructures.
Alors, l'État manque de moyens. C'est l'État qui a délégué aux collectivités locales. Donc,
j'allais dire, le public, le système public manque de moyens pour entretenir les voies. Parce qu'on donne beaucoup d'argent à l'Europe qui ne sert à rien. Il faudrait mieux garder
l'argent. L'Europe ne nous donne pas beaucoup d'argent.
Rien pour ça. Non. Elle nous coûte. Pour l'instant, l'Europe nous coûte.
Valérie Carmel.
C'est terrible. Moi qui suis un grand défenseur du public en général, quand tu vois la qualité des autoroutes en France privées que l'on paye, elles sont parfaites. Vraiment, l'entretien est excellent. Excellent. Et puis, vous regardez.
Avec l'argent qui gagne, il ne manquerait plus que ça.
Mais excuse-moi, nos départementales et nationales, on les paye aussi avec nos impôts, elles ne sont pas bien. Donc, je suis désolé, entre les autoroutes, moi, elles me coûtent quand je l'utilise. Moi, quand je n'utilise pas une départementale, elle me coûte quand même, et quand j'utilise, elle n'est pas en bonne condition. Donc, oui, il y a un vrai questionnement à ce sujet.
Cher Edouard Magnan.
Oui, c'est grave. Enfin, quand moi qui roule beaucoup en campagne, on voit effectivement des véritables problèmes, et de revêtement et de nid de poule, et même sur des voies rapides ou sur des nationales qui ressemblent à des autoroutes mais qui sont pas ces motoroutiers, où on voit quand vous roulez sous la pluie, vous voyez la différence de qualité du revêtement. Vous avez des revêtements où le même niveau d'averse, l'eau est évacuée, vous roulez, vous vous sentez plus en sécurité. Des endroits où vous avez l'impression quasiment de traverser une rivière.
Et au passage,
sur la même route, donc c'est des tronçons en fonction de ça appartient à qui.
Et au passage, une bonne pensée pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont utilisateurs de deux roues. Les conséquences sont
encore pires qu'en voiture. Et on le voit bien. Et c'est juste une question de revêtement. Vous êtes à la même vitesse et la même averse. Et donc, c'est là où l'on voit, effectivement, après, sur des problématiques de nid-pou, de bas-côté, les accotements des routes aussi.
C'est le premier signe de décadence d'un État qui laisse tomber les infrastructures. C'est l'état des routes. Et il y a des départements français, vous avez des endroits où c'est des états de pays sous-développés. Voilà, honte à la République.
C'est pas faux.
Honte à la République.
Apolline Matin, toujours. Les fêtes foraines sont-elles devenues infréquentables alors qu'elles sont censées être des lieux de fêtes populaires? De très violentes altercations entre bandes ont eu lieu dernièrement au sein de l'une des plus célèbres d'entre elles, la Foire du Trône à Paris. Voilà. Des événements qui dépassent les forains eux-mêmes, comme le déclarait ce matin sur RMC René Ayoun, il est le président des entreprises foraines de France.
Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des bandes de jeunes qui veulent marquer un territoire, tout le bazar, ou alors perturber des animations. Et en plus, on ne sait pas comment faire, pour la bonne et simple raison, c'est que la fête foraine est un lieu populaire où les gens peuvent rentrer gratuitement. Nous ne sommes pas là pour faire la police. Nous sommes simplement là pour protéger le public et protéger nos activités, protéger nos familles. Donc quand vous avez des bandes de jeunes qui arrivent avec des cutters ou qui arrivent avec des bacs de baseball et tout ça, on ne sait pas d'où c'est qu'ils les sortent, puisque à l'entrée, il y a quand même des vigiles. La fête foraine n'est pas une insécurité. C'est pas la fête foraine qui est une insécurité. En ce moment, je pense qu'il y a un très grave problème en France. C'est la France qui est devenue insécuritaire dans tous les domaines.
Frédéric Carmel, toi qui es sensible aux fêtes foraines, je le sais comme moi, parce qu'on vient d'une région où c'est la tradition, ce qu'on appelle chez nous
la Ducasse.
Ouais, Ducasse. Les fêtes foraines. Est-ce que toi aussi, ça t'inquiète, cette situation où on voit une multiplication d'incidents, de bagarres, notamment lors de fêtes foraines?
Ah oui, parce que on attaque vraiment le cœur de notre société, des loisirs vraiment populaires, où tous les gens de tous les milieux se retrouvent. Vraiment, c'est un endroit de fête, C'est vraiment la Madeleine de
brassage,
la Madeleine de Proust, je dirais la barba para, la barba papa de chacun. C'est le moment où on mange une barba papa une fois dans l'année, c'est à la fête foraine. Moi, j'adore ça, à la foire du trône, j'adorais y aller. Et j'ai vu les images de batailles rangées, en fait, et de gens qui se filment, et ils sont heureux de se filmer en train de casser, et font peur aux forains. Alors, pour faire peur aux forains, faut y aller quand même. Et c'est terrible. Et aussi parce que c'est dangereux. Je voudrais pas que c'est une très belle profession, la profession de forain. J'étais même ami avec ceux de mon village, Même quand j'étais petit au village, on aidait les forains à monter les autotamponneuses, quoi. Voilà.
Ça se fait toujours, non?
Ah oui. Alors, j'ai dit, c'est, il y avait une tradition, etc., pour la ducasse du village, et qui était toujours aux alentours du 14 juillet. Et là, en fait, c'est une profession qu'on est en train de menacer à cause de cette violence, quoi.
Qui est victime,
parce que si les gens se disent, je vais pas emmener mon gamin de 8-10 ans à la fête foraine parce que il y a des racailles qui vont tabasser tout le monde, c'est dommage. Il faut vraiment protéger ça parce que c'est une belle tradition française et qui va être en danger à cause de l'insécurité, et c'est détestable, en fait.
Derrico.
Pas mieux. On constate comme Fred, et on l'a vécu parce que je suis aussi sensible aux fêtes foraines qui est un souvenir d'enfance. Et là, je croule sous les témoignages, quel que soit le territoire, où il y a inévitablement, alors plus proche d'une grande ville, bien sûr, avec une banlieue dite sensible.
Pas forcément. Pour être du Nord comme Fred, moi, la Ducasse, la fête foraine, ça a toujours fait partie de ma vie aussi depuis que je suis gamin. Et je t'assure que moi, je continue à y aller dans ma région. C'est vrai que je sens que c'est plus comme. On est peut-être devenus des vieux cons.
C'est plus l'ambiance de l'enfant.
Tu sais, on est peut-être des vieux cons maintenant.
Mais
factuellement, ce qui s'est passé à la fête foraine, ce qui s'est passé l'an dernier chez moi.
Ce que je voulais dire, c'est que dans des fêtes de village où ça s'est toujours très bien passé, vous avez des gens qui viennent de banlieue à 10, 15, 20, 30 kilomètres.
Ou de village. Je te jure.
Ou de village aussi, mais surtout si vous avez une banlieue sensible, aujourd'hui, les bandes de banlieue sensible se déplacent à la fête.
Le problème, Perico, c'est qu'aujourd'hui, il y a des quartiers dans toutes les villes.
Oui.
Ce qu'on appelle des quartiers dits.
Oui, mais vous avez des quartiers où les bandes bougent. C'est ce qui s'est passé à Crépol. Ils sont allés de Romans à Crépol.
Est-ce que c'est inquiétant, cette situation, Pierre-Edouard?
Oui, elle est inquiétante, mais pas spécifiquement. En fait, on voit dans notre société. Aucun espace dans notre société n'est à l'abri des autres espaces de la société. Et donc, il n'y a malheureusement aucune raison que des phénomènes de bande, puisqu'en fait, à l'origine, ce sont des phénomènes de bande. Avant, on avait éventuellement quelques petits voleurs à la tire, mais à la limite, on les connaissait, on les attrapait, c'était pas bien grave. Et ça ne créait pas un sentiment d'insécurité, paradoxalement. Mais effectivement, on a ce phénomène de bande, ce phénomène de gens qui vivent sur la bête, et qui, du coup, effectivement, vont partout. On voit ce qui se passe à proximité. Quand j'entends parler éducation nationale, sanctuaire, mais y a la notion de sanctuaire n'existe plus, puisque d'abord, on vit dans un monde ouvert, et finalement, toutes nos parcelles sont ouvertes. Et donc, effectivement, j'entendais même, évidemment, il disait qu'il y a des vigiles entre des fêtes. Moi, j'ai souvenir, chez nous, c'est la foire Saint-Romain à Rouen. Il y a quelques années que je ne suis pas allé, mais je n'avais jamais vu de vigile à l'entrée. C'était pendant le temps sur les quais de Seine, on descendait, on arrivait sur les ponts, on prenait l'escalier, et c'était sur les quais. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais eu un vigile. Et là, je réagis à ça parce qu'il y a quelques temps que je ne suis pas allé. Il nous dit en plus, ils ont des bêtes, on ne sait pas d'où ils les sortent, alors qu'on a quand même des vigiles à l'entrée.
À la foire du trône, tu as des vigiles maintenant systématiquement à tous les entrées, etc. Donc, t'imagines.
Donc le truc c'est que les espaces sont tous interconnectés, et c'est pas vrai que pour l'internet, c'est vrai aussi pour la délinquance dans la vie quotidienne.
Les GG, pour ou contre la priorisation de logements sociaux pour les travailleurs de première ligne? C'est la proposition du député Renaissance David Amiel, qui souhaite que les professeurs, les policiers, les infirmiers soient prioritaires pour l'attribution d'un logement social, une idée que ne partage absolument pas l'avocat des GG, Charles Consigny.
Moi, je pense que la France est un pays qui se soviétise.
Bah oui.
Et qu'en fait, on veut loger la fonction publique comme on le faisait en Europe de l'Est pendant l'Union soviétique. Je sais que les logements de fonction sont courants aux postes divers et variés de la République. Moi, je suis pour le chemin inverse. Je suis pour la suppression des logements de fonction et la sortie de cette logique soviétique. Je pense que la France doit retrouver au contraire de la liberté. Par ailleurs,
je pense que ce n'est pas parce qu'on travaille pour l'État
qu'on doit être débranché de toutes les contingences qu'affrontent les gens qui sont dans le privé.
Sacrément augmenter les salaires des policiers, des gendarmes et des professeurs si on supprime certains logements de fonction.
Moi, je suis pour le bon sens. On manque d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignants. On manque de pompiers, on manque de tout.
De profs,
on manque de ces professions essentielles à la vie. Si on n'arrive pas à mieux les payer, on peut peut-être leur offrir justement la possibilité d'aller d'avoir des logements sociaux réservés à eux. C'est-à-dire c'est un avantage en nature entre guillemets qui peut un peu inciter les gens à prendre à occuper des postes qui sont difficiles à pourvoir. Donc je trouve l'idée très bien. Il y a plein de gens, on sait très bien, qui sont dans des logements sociaux et qui n'ont pas le droit d'y être, qui en profitent très très longtemps, et même beaucoup de politiques, enfin oui, ils sont un peu chassés, mais il y a eu beaucoup d'abus à ce niveau-là.
En effet.
Donc moi je trouve ça très bien, c'est une incitation pour occuper des postes dont tout le monde a besoin, donc c'est très bien. Très bien.
Thierry Dormagnon. Alors, moi je suis pas hostile à l'idée, mais faut revenir à l'origine du problème, c'est seulement qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. C'est-à-dire que dans ce pays, en fonction de ses revenus, qu'on soit d'ailleurs fonctionnaire ou salarié du privé, si on a accès à un logement social, si on a accès au logement intermédiaire, on devrait pouvoir y accéder parce que l'offre est suffisante. Donc, moi je ne suis pas contre l'idée dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Mais cela dit, le fond du problème, c'est qu'il faut faire suffisamment de logements sociaux de tous les niveaux, de toutes les tailles, des logements intermédiaires, des actions privées. Enfin, il faut être à tous les échelons. Le logement social, c'est pas que la barre HLM. Ça va, d'ailleurs, j'insiste là-dessus. Donc voilà. Pour effectivement, l'offre soit conforme à la demande. Parce que sinon, effectivement, je suis pas d'accord avec la notion de soviétique. Enfin, bon, c'est pas étonnant de le consigner, mais je pense que Dieu merci, comme on n'a pas vécu en Union soviétique et on s'en réjouit. Au demeurant, effectivement, on voit bien la difficulté aujourd'hui d'accéder au logement. On voit bien la difficulté de loger à proximité de son travail, et notamment pour des fonctionnaires dont on a en plus beaucoup besoin, qu'ils soient logés non loin de là où ils travaillent. Donc effectivement, en attendant, il faut sans doute en passer par là. Mais le sujet de fond, c'est la suffisance de logements. Perico Legas.
Notre ami Charles Consigny est un ultralibéral et il a le courage de l'assumer de ce point de vue-là, public. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire. Les fonctionnaires n'ont pas à avoir de statut privilégié par rapport à la réalité de la population. En même temps, nous avons dans la fonction publique des missions particulières qui nécessitent d'avoir le meilleur confort possible, la meilleure efficacité. Et si des infirmières, des policiers, des enseignants, pour qu'ils soient dans le meilleur état d'efficacité, ont besoin d'un logement décent, c'est à l'État de leur assurer ce logement. Voilà. Alors, si on pouvait s'en passer et qu'il y ait des logements partout à bon prix, il n'y aurait pas de problème. Il s'avère qu'aujourd'hui, la crise du logement est telle qu'il faut protéger ces fonctionnaires de la République qui apportent un service public et qui doivent l'assumer en bonnes conditions avec des conditions décentes de logement. C'est tout ce qu'on a voulu dire, et ça ne retire rien au fait que Consigny considère que pas de privilèges. Vous avez des gens qui ont des privilèges et des prébendes, ça non, mais quand on remplit une mission aussi sociale, aussi importante sur le terrain, on a besoin d'être logé proprement.
Oui, et je voudrais revenir sur ce que disait Pierre-Edouard Magnan, sur le fait que ce ne sont pas des logements sociaux, ne sont pas que des barres HLM aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les maisons d'accès à la propriété. Il y a beaucoup de trucs, c'est-à-dire que c'est aussi une petite incitation pour remplir ses fonctions, et ce ne sont pas que des barrages.
Et la société soviétique n'avait pas que des défauts.
Ça se discute.
Reviendra enfin un sujet là-dessus.
Apolline Matin, le portable devient-il un fléau au restaurant? De plus en plus de restaurateurs ne supportent plus que leurs clients préfèrent avoir le nez sur leur portable plutôt que sur leur assiette. Certains proposent donc des solutions pour leurs clients, que leurs clients abandonnent leur smartphone le temps du repas. Explication de Charles Magnin.
Direction Vérone, en Italie, où le restaurant Al Condominio a lancé une offre pour inciter les clients à se détacher de leur smartphone le temps d'un dîner. Si vous acceptez à l'entrée de placer votre téléphone dans un petit coffre fermé à clé, le resto vous offre une bouteille de vin. Il suffit de montrer ensuite la clé du coffre au serveur. C'est pas obligatoire, mais le patron assure que 90% des clients opte pour cette offre et joue le jeu dans l'Europe entière.
Un petit peu envie d'aller à Vérone, là.
Mais on y va tous, hein?
Et pas besoin d'aller à Vérone. Parce que j'ai regardé. Les Français ont eu l'idée bien avant. Du côté d'Albi, un resto vous offre le café et le Dijon si vous ne touchez pas à votre téléphone pendant tout le repas. Et du côté de Roya Chamalière, dans le Puy-de-Dôme, le restaurant du casino transforme un tiers de votre application en jetons pour le casino. Encore une fois, si vous renoncez à votre smartphone à table.
Génial.
Perico, les gars, c'est quand même triste d'en arriver là.
Moi, je voudrais bien que dans l'émission, on nous donne une bouteille de vin si j'utilise pas mon portable. Ça, je vais demander à.
Ça coûterait pas cher en vin l'émission, avec modération.
Avec modération, c'est pas. Non, excellente idée. Excellente idée.
Mais c'est triste d'en arriver là quand même.
Ce qui est triste, c'est de voir.
C'est pathétique.
Écoutez, mon métier est d'aller au restaurant. Y compris dans des restaurants.
Mon métier
d'aller au restaurant, je le fais avec une dévotion et une conscience
professionnelle. C'est vrai. La France en est reconnaissante.
Ah oui.
Pas assez, mais c'est une bonne idée. Non, plus sérieusement. Je vois dans des restaurants huppés, des couples qui viennent fêter la Saint-Valentin ou des et qui sont toute la totalité du repas. Chacun. Un couple comme ça. ça.
C'est quoi, tant pis pour eux, non?
Non mais
on va leur offrir une bouteille de vin pour les empêcher de faire
la convivialité. Ils n'ont plus rien à se dire. Et les gens et les enfants et tout qui sont au restaurant avec leur truc. Donc il y a des brouilleurs aujourd'hui en France, bien sûr. Mais la solution italienne est la meilleure parce qu'en plus ça incite à la consommation du vin qui n'est pas d'alcool et qui est une très bonne idée. Donc vive Vérone, vive l'Italie et puis et l'Angleterre aussi parce que le tabac va être interdit.
Ouais. Et l'alcool avec modération de toute façon.
Bien entendu, ça me plaît cette solution. Et surtout les gens qui montrent des vidéos avec le son
laisse tomber.
Insupportable.
Allez, et les photos des plaques, mon Dieu.
Ah oui,
la belle-mère.